physique à Fribourg, le 3 mai 1983, quatrième cours.
Y a-t-il des questions? Ils sont dans le silence. Bon, alors je vais essayer de continuer.
Quelque chose de difficile et important, essayer de comprendre exactement. Vous voyez, où le hiatus existe au point de vue connaissance. Et ça, je crois que c'est important de bien le saisir. En philosophie de la nature, en philosophie du vivant, Aristote pose le nous, puis il existe quand même un petit abîme entre le nous et le vivant. Un petit abîme entre deux. Le nous s'est posé pour l'opération propre humaine, pensée. C'est vrai que la personne humaine a des opérations qui lui sont propres. Si je fais une induction, je pars d'opérations propres de la personne humaine. Qu'est-ce qui caractérise la personne humaine? Je disais ça ce matin en terminant. Je continue. Qu'est-ce qui caractérise la personne humaine? C'est normalement qu'elle pense. Cogito. Descartes avait compris. Je cogite. Hein? Alors je cogite, ça fait partie de la personne humaine. Je cogite et quelquefois je parle. Parler. Cogiter, parler. Parler au sens très très fort. C'est-à-dire parler avec une signification universelle. C'est ça qui distingue la manière dont l'homme parlait de l'animal supérieur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les animaux parlent, et du progrès. Les animaux parlent, les animaux, les singes supérieurs parlent, on essaie de cohabiter avec eux, on essaie d'entrer dans leur langage. Tu vois, ils parlent, ils ont des gestes, alors ils ont une signification, c'est vrai, ils ont un langage purement affectif, purement instinctif. Et ce langage purement affectif et purement instinctif est un langage qui a une signification concrète, singulière, pas universelle. Donc, au fond, c'est toujours la même chose, c'est le cogito qui est un quelque chose d'universel. C'est ça le propre de la pensée supérieure. C'est le propre de la pensée intellectuelle. C'est que je pense et je pense d'une manière telle que je dépasse l'aspect descriptif, je dépasse l'aspect purement affectif, et j'arrive à une pensée qui touche quelque chose d'universel. Alors, je peux dire également qu'est-ce qui caractérise l'activité humaine, c'est le facere. Le facere poétique. Comprenons bien, facere poétique. Il y a des animaux qui construisent dans la maison. Il y a des animaux qui construisent très bien, et que l'homme arrive à des choses à peu près analogues aujourd'hui, avec la répétition, quand on a construit une maison, on répète. On fait exactement comme l'animal, on répète. On ne voit plus très bien le point de vue poétique. C'est le point de vue poétique qui caractérise la différence entre le facere de l'araignée, le facere de l'abeille, le facere de l'animal qui construit quelque chose, et l'homme. Il y a l'aspect poétique. Et l'aspect poétique implique un symbole. Il y a un symbole qui touche aussi une signification universelle. Donc là, nous sommes en présence d'activités typiquement humaines, c'est-à-dire propres à la personne humaine. Je peux dire évidemment que ce qui caractérise la personne humaine, c'est le point de vue de la conscience, mais ça vaut beaucoup plus délicat parce que ça c'est purement l'intérieur. Hein. Vous remarquez que le cogito est intérieur, le facere aussi est intérieur, ça a une signification, mais quand même, hein, la signification universelle, elle s'exprime. Et le symbole dans la signification universelle s'exprime. Tandis que la conscience, c'est purement l'intérieur. Au fond, la seule expérience qui me montre une opération proprement humaine, qui relève propre de la personne humaine, c'est la question de la signification universelle. Je crois. Si vous en voyez d'autres,
C'est la même chose pour le côté affectif. Il y a quelque chose où on touche là qui est propre à la personne humaine. C'est intéressant puisque c'est à partir de l'opération que je peux découvrir un principe propre. Je ne peux pas découvrir un principe propre en dehors d'une certaine expérience, d'une opération. Alors, c'est là où la question devient délicate. Est-ce que, de fait, cette opération propre à la personne humaine me permet de découvrir un principe nouveau, autre que l'usia et le nous ? Ou est-ce que, tout simplement, cette opération propre à l'intelligence humaine, à l'opération propre à la personne humaine, me permet simplement de faire le lien entre l'usia et le nous ? Pas si vous voyez bien le problème, hein. Faut le voir bien pour le résoudre. Autrement, si on ne voit pas, ça ne sert à rien de le résoudre. Hein. Et c'est au point important. Ne parlez pas tout le temps à deux. Hein. Je vous en supplie. Si vous êtes ici, vous écoutez. C'est ce qui est propre à l'intelligence humaine, c'est d'écouter. Ici, hein. Ce que vous dites est sans doute très intéressant, et j'aimerais que vous le disiez tout haut. Si vous avez des questions, vous levez votre main et vous posez des questions. Autrement, c'est impossible. On ne peut pas philosopher avec des gens qui parlent en milieu. Parce qu'autrement, ça m'intéresse. Je suis curieux, je suis un homme curieux. Alors, ça m'intéresse ce que vous dites. Alors, j'aimerais entendre, et comme je n'entends pas, c'est, ça me tracasse. Je pose une interrogation. Alors, nous allons donc essayer de voir. Vous voyez, je caractérise. Il y a deux grandes opérations qui sont typiquement humaines. Le cogitant, le produit de la pensée. On peut parler de pensée, parler, c'est en référence. Puisqu'au fond, le langage typiquement humain, c'est celui qui a une signification universelle. Et la signification universelle se ramène à la pensée. Le lieu de la signification universelle, c'est la pensée. Donc, c'est seulement ça qui permet de saisir quelque chose qui est propre de la personne humaine. Je peux le faire du côté du facere. Poétique. J'en reviens à la même chose, je vois qu'il y a un langage symbolique. Qu'est-ce que c'est qu'une activité artistique ? C'est un langage symbolique. Je crée un langage symbolique. Et je crée un langage symbolique qui a une signification, comme un langage symbolique qui a une signification universelle. Quand il n'y a pas de signification universelle, il n'y a pas de symbole. Très curieux. Et c'est ça, c'est important, parce que ça me permet de comprendre la différence entre la manière dont l'homme construit et l'animal construit. L'animal ne construit pas avec une signification universelle. C'est une signification affective. C'est lié à l'individu et lié directement à son affectivité, son instinct. Tandis que là, il y a quelque chose qui est propre à la personne humaine. Et ce quelque chose qui est propre à la personne humaine, c'est justement, c'est au point de vue, c'est l'opération. Donc, ça se ramène à la signification universelle. La conscience, je dis oui, c'est très vrai, ça caractérise la conscience et la responsabilité, je veux dire. La conscience et la responsabilité, mais au fond, conscience et responsabilité, nous l'avons déjà vu en philosophie, ça se ramène à l'éthique. C'est quelque chose de second par rapport à l'opération, c'est pas premier. Donc si c'est second, c'est une propriété, et ça ne permet pas de poser directement un principe. Ça veut dire que je suis en face de vraiment quelque chose qui est une œuvre propre. L'œuvre propre de la personne humaine, c'est d'être capable d'avoir un langage d'une signification universelle. Ce qui caractérise la personne humaine, c'est d'être capable de construire quelque chose qui a un symbolisme, qui a une signification universelle. Je crois que c'est vraiment cela qui est l'œuvre propre de la personne humaine. Bon. Est-ce que, quand je regarde cela, est-ce que cette opération exige de poser un nouveau principe distinct des principes qui ont déjà été saisis, hein, n'oublions pas, avant la philosophie première, avant de réfléchir sur la personne, j'ai saisi en philosophie du vivant, j'ai saisi le nous, j'ai saisi l'intelligence. J'ai posé l'intelligence à partir de la connaissance universelle. capable de vérité et d'erreur. Au fond, le nous, posé comme principe propre, l'intelligence, posée comme principe propre pour le point de vue de la connaissance et le point de vue du parler, ce nous est posé comme une source de ces opérations intellectuelles. C'est suffisant. Pas besoin de plus. Mais vous allez me dire, oui, mais alors, je ne vois pas très bien le lien entre le nous, l'intelligence, et le lien avec la personne. C'est là la difficulté. C'est là la difficulté. Est-ce que je peux poser une substance pensante? Vous voyez le problème de Descartes, hein? La substance pensante. Alors Descartes, il résout le problème tout de suite en mettant substance pensante, il est tout simplement blocage entre les deux. Mais ça n'explique pas. Ça n'explique pas, parce que du reste, Descartes ne cherche pas à poser une induction. Il décrit, tout simplement. Donc il n'y a pas, au sens strict, une induction. Il y a le passage de l'un à l'autre au point de vue descriptif. Donc au point de vue de substance pensante. Alors, est-ce que le nous, l'intelligence telle qu'on le pose en philosophie du vivant, suffit à exprimer comment le cogito, la pensée, est l'opération propre de la personne humaine? C'est-à-dire une opération qui s'enracine dans une autonomie propre et une source particulière, parce que l'autonomie a difficile d'être source, d'opération particulière qui est la pensée. Alors est-ce que c'est là le point de vue le plus délicat, vous voyez? C'est ça qu'il faut bien saisir. Est-ce que c'est suffisant de poser nous et ousia? L'ousia, la substance, hein, la substance. La substance a été posée au plan philosophique première pour expliquer le principe, la cause de toutes les déterminations selon l'être, au niveau de l'être, au niveau de ce qui est. Le nous, c'est au niveau des opérations vitales. Tandis qu'ici, je suis en face de ce que représente la personne humaine que j'ai saisie dans sa complexité et son unité, et je me pose maintenant la question à propos de son unité, est-ce que c'est suffisant pour expliquer l'unité de la personne humaine de poser simplement l'intelligence comme source des opérations vitales, ou est-ce que je ne dois pas essayer de comprendre le lien qui existe entre l'intelligence et la substance? C'est-à-dire reprendre le problème de Descartes de la substance pensante. C'est vraiment ça. Je crois que c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. La substance pensante. Je crois que vous voyez tout ce problème. Je voudrais que vous le voyiez tout ça. Parce que y a-t-il là quelque chose de nouveau, vous voyez, qu'on doit dire, principe particulier, qui me permet de poser la substance pensante, cette substance pensante qui me permet de comprendre que l'autonomie dans l'ordre de l'être rejoint le point de vue de l'esprit, c'est une autonomie spirituelle dans l'ordre de l'être. C'est pas simplement une autonomie dans l'ordre de l'être, mais c'est une autonomie spirituelle dans l'ordre de l'être, qui explique comment l'homme est capable de penser, d'exprimer sa pensée, de réaliser un nouveau monde qui est le monde de sa pensée et qui est source proprement de son autonomie dans le spirituel. Mais alors, est-ce que je dois poser une substance pensante? Autrement dit, est-ce que Descartes là a saisi quelque chose d'intéressant pour nous, ou est-ce que je dois tout simplement dire, je ramène à l'ousia, je ramène au nous, en respectant les deux plans, ceci qui est, et puis l'opération du travail. Je crois que c'est là le problème. C'est bien comme ça que vous me saisissez. Dites, exprimez.
Ce que vous avez souligné tout à l'heure, s'il y a une nouvelle induction, il y a un nouveau point de départ.
Oui.
Par rapport à l'expérience.
Le point de départ, c'est bien, je crois, l'opération propre à la personne humaine. L'opération propre à la personne humaine, c'est qu'il y a un langage qui a une signification universelle.
Il est caractérisé. Mais il faut considérer toute l'expérience, c'est-à-dire les diverses activités, dans la mesure où l'analyse, ensuite, l'analyse de l'acte propre de cette substance ne pourra se faire qu'à partir de l'expérience considérée dans son ensemble. Et pas
oui.
Dans un aspect particulier.
C'est quand même un aspect particulier parce que les autres aspects se ramènent à ça. Qu'est-ce qu'il y a de propre à l'homme ? L'aspect qualitatif qui caractérise l'opération propre de la personne humaine distingue de toutes les autres opérations du vivant, c'est qu'il y a de fait, je peux le toucher dans le langage ou dans l'œuvre poétique, je peux toucher une signification universelle.
L'universel dit le mode.
Quoi ?
L'universel dit la manière.
La manière. Tout à fait.
Et c'est pas par l'universel qu'on pourra saisir ce qu'il y a de propre à chacune des activités. Et ensuite des groupes.
Je crois qu'au contraire, c'est par l'universel que je sais.
Comme tel.
Ouais. C'est pas par le point de vue autrement. C'est par l'universel. L'universel met le sceau de l'activité typiquement humaine. Exactement.
Il faut distinguer les activités humaines entre elles.
Les activités humaines entre elles se distinguent selon leur détermination, c'est sûr. Mais ce qui m'intéresse dans cette induction, c'est d'essayer de voir le lien entre ces diverses opérations et la personne humaine comme quelque chose de concret, comme source d'une opération nouvelle que je n'ai pas déterminée. Vous voyez, je n'ai pas déterminé en philosophie du vivant. Dans la philosophie du vivant, j'ai déterminé toutes les opérations particulières et j'ai posé le point de vue de l'âme. Mais j'ai posé le point de vue de l'âme substantielle à un niveau et au niveau du nous, je n'ai pas réglé exactement le lien entre l'intelligence et cette âme substantielle. C'est resté là comme un point d'interrogation. Y a-t-il une âme substantielle ? N'y a-t-il pas une âme substantielle ? Est-ce que cette âme, cette intelligence, elle est une partie séparée, mais est-ce qu'elle s'enracine dans la substance comme principe d'être ? Au point de vue purement vital, je ne le dis pas. Et je ne peux pas le dire. Au point de vue purement vital, comme exactement au point de vue de la philosophie du vivant, je ne peux pas déterminer si l'âme est immortelle ou pas. Seule la philosophie première peut déterminer si l'âme est immortelle. Et elle peut le déterminer uniquement en jugement de sagesse. Elle ne peut pas le déterminer autrement. Peut-être qu'ici elle peut le déterminer. C'est un qui serait à voir. Mais ce n'est pas le premier point de vue que je prends. Je prends comme premier point de vue l'opération strictement caractéristique de la personne humaine. Qu'est-ce qui caractérise indépendamment de la diversité. Parce que la diversité, elle a été traitée en philosophie du vivant. En philosophie du vivant, j'ai vu toute la diversité, toute la gamme de mes opérations qui relevaient de l'homme en tant qu'il était un vivant. Il se nourrit avec une modalité particulière, il dort avec une modalité particulière, c'est bien évident, puisqu'il a peut avoir une harmonie dans sa vie, il a dit toutes les opérations au point de vue sensation, au point de vue passion, au point de vue intelligent, tout ça. J'ai posé tout ça. J'ai posé pour cela des diverses dynamis, des dynamis différents. J'ai posé des puissances différentes à chacune de ces opérations, en les analysant. Maintenant, je cherche, ayant posé la personne comme un pose, comme un comment qui fait l'unité, je me dis, est-ce qu'il y a un principe propre qui me permet de dépasser ce comment, toujours, l'interrogation du comment peut servir à deux choses, il ne faut jamais l'oublier. Le comment peut être un point terminal, et le comment peut être un point de départ pour une nouvelle recherche. Le comment, quand j'essaie de saisir la manière dont existe une réalité. Ici, je saisis la manière dont existe la personne, l'homme. L'homme existe d'une manière, au point de vue philosophique, d'une manière tout à fait singulière. de façon tout à fait unique. Donc, je vois au terme de ma métaphysique, au terme de la philosophie première, je peux préciser ce que c'est que ce problème de la personne humaine. Et nous l'avons fait, je ne reviens pas dessus, nous avons vu que cette personne humaine implique une complexité. Je vois que j'assume dans cette perspective de ma philosophie première tout ce que le psychologue a dit, les trois sentiments du moi, le sentiment d'autonomie, le sentiment de valorisation, le sentiment de sécurité, vous arriverez à le savoir, hein, les trois sentiments du moi, et que ces trois sentiments du moi sont dépassés par la triple vision philosophique, métaphysique, de la substance, de la capacité de dépassement de la personne humaine à l'univers du bien, et ce qui est gardien de ce dépassement, une immanence dans l'archeur de l'univers. Cette espèce de lucidité que l'homme peut avoir dans la chair de l'amour. Et cette lucidité qu'il a est gardien de son amour. Un amour qui n'est plus lucide, qui n'a pas comme gardien la lucidité, risque toujours de se corrompre, c'est-à-dire de retomber, et de ne plus mettre l'homme dans le lien avec une autre personne, c'est-à-dire avec un bien spirituel. Bon. Je vois ceci, ça fait partie du pose. Hein. Je vois comment tout ce que j'ai vu en métaphysique se retrouve autour de la personne humaine et me permet de déterminer le comment de la personne humaine. Pour ça, je n'ai pas de nouveaux principes, parce que c'est uniquement le comment, la manière d'exister. L'homme existe dans son autonomie. L'homme existe dans son autonomie, dans son dépassement. L'homme existe dans une possibilité d'autocritique, de recherche de la vérité, donc de lucidité. Il sait que tout cela se fait dans un développement progressif, dans un devenir, dans une croissance. Plus ou moins rapide, mais ça se fait toujours dans une croissance. Bon. Tout ça, c'est le pot, c'est le comment. Ce comment peut être un point terminal de ma métaphysique. Je veux dire, maintenant, ça y est, je me pose un nouveau problème. Est-ce que la personne humaine est-elle la réalité dernière? Parmi toutes les réalités que j'expérimente, la personne humaine est vraiment la réalité la plus parfaite. Mais je peux me poser le problème, est-elle vraiment la réalité ultime? Autrement dit, ma conception que j'ai de l'être va-t-elle pouvoir s'épuiser dans la personne humaine? Gros problème, c'est un très grand problème qui termine la philosophie première. Est-ce que la personne humaine, qui est l'expérience ultime que j'ai des réalités singulières, est-ce que la personne humaine est ce qu'il y a d'ultime? Autrement dit, est-ce que ce que les traditions religieuses parlent d'un Dieu créateur, est-ce que c'est un mythe, ou est-ce que l'intelligence humaine peut dire quelque chose là-dessus? Je suis obligé de traiter cette question-là, hein, puisque la philosophie doit traiter tout ce qui regarde l'homme. Alors, tout ce qui regarde l'homme, je dois donc nécessairement regarder ce que les traditions religieuses me disent par rapport au Créateur. Puisque l'attitude religieuse de l'homme est-elle mythique ou est-elle réelle? Et seule la philosophie première peut le dire. Personne d'autre ne peut le dire. Seule la philosophie première. Je ne parle pas de la foi chrétienne, ça c'est autre chose. Mais seul le point de vue philosophique de la philosophie première peut le dire. Et elle peut le dire au moment même où je suis en face de ce pose, de ce comment de la personne humaine. Quand j'ai déterminé la manière d'exister de l'homme. Et je me pose cette question, y a-t-il un genre dans une nouvelle perspective, ce que nous verrons la fois prochaine, mais avant d'entrer dans cette perspective, je voulais poser ce problème. J'entre dans cette perspective de ce qu'on a appelé la théologie, c'est-à-dire la recherche de l'existence d'un être propre. Je crois que c'est très important de se le poser, parce que c'est ça qui donne la signification dernière à la philosophie première. Pour la philosophie première, elle est faite pour cela. Mais je peux me poser aussi cette question. Et c'est la question que je me pose maintenant. Je peux me poser cette question. Quand je regarde le pot, c'est le comment de la personne humaine, je peux, à partir de là, me dire, est-ce que ce comment de la personne humaine est le point de départ d'une nouvelle analyse de la personne humaine. C'est-à-dire la découverte d'un nouveau principe. Tant qu'il n'y a pas découverte d'un nouveau principe, il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas d'analyse. Il y a tout simplement une nouvelle description qu'on peut toujours perfectionner. Hein. Je peux regarder tous les psychologues et regarder tout ça. On peut perfectionner à l'infini. La personne humaine a un halo suffisamment vaste pour pouvoir perfectionner cette description de ce comment de la personne humaine, de ce pose de la personne humaine. Mais ici, je me pose la question, et ça c'est important, est-ce que ce comment est-il le point de départ d'une nouvelle analyse qui serait la philosophie de la personne humaine? Une partie de la philosophie qui serait propre à la personne humaine. Comme il y a une partie de la philosophie qui regarde Dieu, il y a une partie de la philosophie qui pourrait regarder la personne humaine. Qui serait quelque chose de très intéressant, très important, de très actuel, de découvrir ça. Il faut être loyal, il faut dire, est-ce que de fait il y a un nouveau principe. Donc, je pars de ce comment de la personne humaine, et à partir de là, je me dis, quel est le signe, l'opération caractéristique de la personne humaine. C'est pour ça que je dis le signe caractéristique de la personne humaine, c'est la signification universelle de sa pensée, la signification universelle du langage et le symbolisme qui implique une signification universelle dans ses œuvres d'art. Autrement dit, le problème de la culture, hein, je pourrais dire, c'est le problème de la culture. La culture est le fruit de la personne humaine. Or, une culture, qu'est-ce que ça implique? Une culture implique un tissu de relations universelles. Suivant que la culture est plus ou moins parfaite, ces relations universelles s'étendent plus ou moins grandes. Et vous voyez, le moment où en philosophie grecque, les stoïciens ont découvert que l'homme était citoyen de l'univers, je crois que ça fait un très grand pas par rapport à la culture. Parce qu'avant, ils regardaient les barbares, et les Grecs, hein. On sait ce que ça veut dire, les Grecs et les barbares. Et donc tout ce qui n'est pas grec est barbare, et tout ce qui est grec est intelligent. C'est limité, ça, au point de vue de la culture. Hein. Tandis que le jour où je considère que l'homme a quelque chose de plus, je touche ce caractère universel. Oui. Alors je crois qu'on peut dire ça. Hein. Je crois qu'on peut dire que lorsque je décris ce que c'est que le pose de la personne humaine, je peux me poser la question, et il faut ça poser, quel est le halo autour de la personne humaine, la culture. L'homme secrète autour de lui quelque chose de particulier, secrète une culture. Tout problème de la culture. Il secrète autour de lui un halo particulier de langage, d'œuvre d'art, qui touche quelque chose d'universel. Et donc là, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière au niveau de la culture. Il y a des frontières au niveau de l'armement, mais il n'y a pas de frontière au niveau de la culture. Il y a des frontières au niveau économique, mais il n'y a pas de frontière au niveau culture. Parce qu'on touche quelque chose qui est universel. Alors je crois que c'est ça qui est l'œuvre propre de la personne humaine. Si on est d'accord là-dessus, je crois qu'on peut l'être, c'est assez facile de le comprendre. Si on est d'accord là-dessus, on peut donc se poser la question, à partir de cette œuvre, en interrogeant quelle est la source propre de ce caractère, de cette œuvre, de cet ergone. Je veux dire, on peut dire ergone. La culture, c'est une ergone, c'est une œuvre. Hein. C'est une œuvre qui est propre à l'homme. C'est l'œuvre propre de l'homme. Est-ce qu'à partir de là, je peux découvrir un principe propre qui n'est ni le point de vue du nous, ni le point de vue du via, ni le produit de la nature. Enfin, tout ça a été découvert avant. Qui serait un principe, qui serait caractéristique de la personne humaine. Hein, vous êtes bien d'accord? Oui, dites.
Si on réfléchit au principe du niveau de l'opération du temps, c'est le mousse.
Ah, tout à fait.
Donc il n'y a rien de nouveau.
Oui, rien de nouveau.
Donc si on veut prendre une perspective nouvelle pour chercher un principe au niveau de la substance, il faut finalement regarder l'homme comme substance et chercher ce qu'il y a de déterminant.
Non, il faut regarder l'homme comme pousse, comme pose, comme la personne humaine.
Oui, donc c'est-à-dire comme une certaine substance particulière, oui. Non pas justement en tant que
substance. Le noyau particulier de cette culture qu'il est capable de réaliser et qu'il de fait a réalisé.
Ça, c'est ce qui oblige de se poser le problème. Mais si on veut découvrir le principe propre, il faut partir de la substance.
Non, ben, c'est pas de la substance, je ne peux rien inférer à partir de la substance.
Non, de la substance de l'homme.
Oui, de la substance de l'homme. Principe, donc de la personne humaine.
De la personne humaine, tout à fait. Oui. Et alors, pour voir, dans ce cas-là, il faudrait essayer de saisir finalement quelles sont les parties propres à l'homme, ce qu'est l'homme en tant que tel. C'est exactement, si vous voulez, ce que fait.
C'est le d'anima.
Non, alors attendez, je dis que c'est comme, c'est une démarche parallèle, mais à partir d'une expérience différente. Parce que dans le d'anima, Aristote cherchant à cerner ce qu'est l'homme,
ce qu'est le vivant,
il montre que finalement, c'est en tant qu'il est principe de vie, et qu'il a un certain principe de vie, donc, et ce principe de vie, il l'appelle l'âme, mais dès le point de départ, avant l'induction. Et il dit que cette âme, finalement, c'est la qualité du vivant, c'est sa forme propre, c'est sa nature.
Oui.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire pour l'homme que de la même manière que l'animal, donc, en tant qu'il est un vivant et qu'il a un certain principe de vie, se distingue de la réalité naturelle, bien de la même manière, l'homme, en tant qu'il a un principe d'opération spirituelle, et que ce principe d'opération spirituelle, justement, par l'universel, semble pas pouvoir se ramener au principe de vie animale. Alors la forme propre, si vous voulez, la nature propre de l'homme, c'est le principe de ses opérations spirituelles. Et alors il semblerait qu'on découvre dans ce cas-là, entre le principe propre de ses opérations et les diverses parties animales de l'homme, un rapport qui soit comme celui de la matière à la forme. De même que pour l'animal, entre la puissance vitale et l'organe, il y a un rapport de matière propre parce que l'organe, en quelque sorte, ne participe pas à l'acte propre du vivant. Et il en est l'instrument. Et de la même manière, on pourrait dire que les puissances animales en l'homme, c'est par exemple assez clair dans l'analyse qu'Aristote fait de l'intellect, eh bien, elles sont utilisées en vue de l'opération propre du nous. Et donc, ces parties propres, ces parties animales, sont comme une matière par rapport à l'esprit.
Votre principe propre, vous le saisissez à partir d'une induction. Ou bien non. Alors, quelle serait l'induction? J'aimerais que vous puissiez préciser l'induction propre qui me permet de débattre un principe nouveau. C'est un principe nouveau qui ne serait ni le nous, ni l'ousia, mais qui serait le lien entre les deux. Hein? C'est ça, je crois, en définitive, ce que vous cherchez. C'est la substance pensante de Descartes. Je fais le lien, venez, je vois l'analyse d'Aristote et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a là quelque chose qui n'a pas été traité. Tout à fait d'accord. Il y a le lien entre l'ousia et le nous qui n'a pas été traité. Alors, toute la question de savoir si ce lien entre le nous et l'ousia doit se traiter au niveau du pons ou au niveau d'une induction. Pour moi, c'est au niveau du pons. Pour vous, c'est au niveau d'une induction. C'est ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est quelque chose de nouveau. Ça m'intéresse de voir si c'est quelque chose de nouveau aboutit vraiment à quelque chose ou au fond, tout simplement, je comprends, c'est très important de voir le hiatus qui existe dans la philosophie aristotélicienne, et ça n'a pas été repris. Parce que saint Thomas traite ça en théologien, donc c'est tout de suite fait. Saint Thomas n'est pas chercheur philosophique, hein. Il est théologien. Donc il reprend, il utilise Aristote, et puis c'est tout. Et ça n'a jamais été repris.
ça il faut le reconnaître. Donc, ça n'a jamais été repris entre le lien entre le point de vue du nous tel qu'il est donné dans le livre 3 du Nirvana, et puis l'ousia dans le livre Zeta d'Aristote. Il y a un lien qu'il faut faire. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a ce lien qu'il faut faire. Et au fond, c'est ça que vous cherchez. Et je dis, Descartes a fait le lien, n'est-ce pas? Je sais bien que vous intéressez moins à Descartes, mais Descartes a fait ce lien en pensant substance pensante. C'est intéressant de voir ça, parce qu'au fond, Descartes connaissait Aristote, il était à la fin de la scolastique, et là, il saisissait bien, il y avait encore tout un aspect qui... Il avait mis substance pensante. Il met de la colle entre les deux. Hein. Vous voyez, le nous pensant et la substance. Alors il les colle. Il les colle directement, tout simplement. Donc, il faut répondre à la substance pensante de Descartes. Il faut y répondre. Il faut y répondre de deux manières. Moi, je le vois y répondre par le point de vue du comment. Alors, par le point de vue du comment, faisons toute l'analyse que nous avons essayé de faire ce matin et tout à l'heure, en essayant de comprendre les différentes activités propres à la personne humaine, et comprendre qu'il y a une unité substantielle dans ces opérations. Il y a une unité substantielle, c'est-à-dire que lorsque je pense, c'est ma personne humaine qui pense. Lorsque j'aime, c'est ma personne humaine qui aime. Lorsque je mange, c'est ma personne humaine qui mange, et ainsi de suite. Autrement dit, grâce à cette analyse du comment, je ramène toute la diversité des opérations à une unité substantielle. Et c'est ça que j'appelle l'autonomie de la personne humaine. Et cette autonomie, elle repose sur la substance. Elle est substantielle. Et je dis qu'il n'y a pas de nouveau principe à poser, il y a tout simplement à comprendre dans l'ordre du pose, dans l'ordre du pose, il y a tout simplement à comprendre dans l'ordre du pose que je suis en présence d'un principe radical d'être et de vie. Puisque pour moi, comme vivant, vivre, c'est exister. Mon exister est dans mon vivere, dans mon fait de vivre. Mon fait de vivre et mon fait d'exister s'identifient. Il n'y a pas deux choses différentes. Du fait même, et ça je peux le dire tout de suite dans l'ordre du comment. C'est l'ordre du comment, ça. J'ai distingué avant dans l'ordre des principes, mais dans l'ordre du comment, c'est de l'ordre du comment de dire que vivre pour moi, c'est exister. Exister pour moi, c'est vivre. Si je ne vis plus, je n'existe plus. Dans mon unité personnelle, c'est en ce sens-là que je peux dire que la mort brise mon exister. D'une certaine manière. Parce que la mort brise l'unité que j'ai en tant que vivant. Et donc, comme cette unité du vivant touche le point de vue de mon être, de mon exister, il y a une répercussion sur ma manière d'exister dans l'ordre par la mort. Et ce que Rameur dit quand il parle sur le point de vue de la mort, et qu'il essaie de montrer que la mort doit se définir par le point de vue de l'être, et non pas par le point de vue de la vie, il y a toute une recherche intéressante, je crois que c'est beaucoup plus simple à dire. C'est tout simplement que pour le vivant, vivre, c'est exister. C'est ça le comment du vivant. Or la mort, puisque c'est négatif, c'est dehors du comment, c'est dehors du conditionnement, c'est pas un principe, heureusement. Donc c'est tout simplement de l'ordre du comment, ma manière d'exister. Maintenant j'existe dans l'unité, mais c'est que cette unité est fragile, ça peut craquer. Et je sais qu'un jour ça craquera. Alors, et en craquant, qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien, je n'ai pas l'expérience de la chose. Mais ça craquera. Alors, je suis plus ou moins proche de la fêlure. Mais ça craquera. Alors, je peux dire qu'à ce moment-là, la mort brise l'unité de ma vie, l'unité de ma personne humaine. Oui. La mort brise l'unité de ma personne humaine. Et dans la mesure où la mort brise l'unité de la personne humaine, elle touche mon exister, ma manière d'exister. Et donc, il y a une répercussion dans l'ordre de l'être. Oui, donc, le problème de la mort est très significatif dessus. Parce que ça s'est fait comprendre. Quand, dans l'ordre de pause, je peux dire que
sur ce que représente cette opération intellectuelle. Elle est celle du sujet. C'est moi qui pense. C'est moi qui aime. C'est moi qui... Alors, c'est bien dans l'ordre du Kant, l'union entre la substance et le nous. Il y a donc une substance pensante qui n'est pas un principe, mais qui est ma manière d'exister dans mon unité. Qui n'est pas un nouveau principe. C'est tout simplement le principe dans l'ordre de l'être que dans l'ordre de grâce, l'étude du commandement, j'explicite. Je dis ce principe dans l'ordre de l'être. Quand il s'agit de la personne humaine, quand il s'agit de ce vivant particulier qui est l'homme, ce vivant, il a une substance qui est tout à fait unique parce qu'elle est spirituelle. C'est son âme spirituelle. Et cette substance, elle est bien quelque chose qui est source d'être, mais en même temps, elle est source spirituelle. Ce n'est pas un nouveau principe. Ça vous gêne ?
Parce que quand on dit substance pensante, on pourrait croire que c'est l'esprit qui pense, qui connaît, qui agit.
Ah, ça dépend.
Non. D'une certaine manière.
Parce que pour Descartes, c'est une étude du cogito, ça n'assume pas le corps, ça s'assume.
Voilà, c'est ça.
Ça n'assume pas le corps. Tandis que pour nous, ça l'assume.
Voilà.
C'est dans ce sens-là que, pour Descartes, hein, la substance pensante, c'est d'une certaine manière saisir la source de la pensée.
Voilà.
Bon, je ne dis pas ça. Je dis que, ayant analysé, toutes les analyses philosophiques sont pour connaître ce que c'est que l'homme. Toute la philosophie est ordonnée à la connaissance de l'homme. Il est donc normal, au terme de toutes les analyses philosophiques, il y ait un nouveau regard qui n'est pas de l'ordre de l'analyse, qui est de l'ordre du comment. Qui permet d'unir l'analyse au niveau de la vie et l'analyse au niveau de l'être. Parce que l'analyse au niveau de la vie et l'analyse au niveau de l'être se fait au niveau du comment et pas au niveau de l'analyse. Au niveau de l'analyse, je voudrais toujours distinguer de la vie. Et parce qu'au niveau de l'analyse, je dois toujours distinguer l'être et la vie, l'union des deux ne se fait qu'au niveau de la manière d'exister. Ma manière d'exister, c'est d'être un vivant et d'être un vivant spirituel. C'est ma manière d'exister. Vous voyez ?
Est-ce qu'on explique le rapport entre le nous et l'âme ?
Non, on ne l'explique pas, on montre qu'ils sont liés.
Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Non.
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse l'expliquer. Je crois que de fait, je constate un fait. Il y a des opérations, parce que alors je reprends l'argumentation de tout à l'heure, n'est-ce pas ? Il y a des constatations. Je constate qu'en effet, il y a quelque chose de typiquement humain, typiquement propre à la personne humaine. Ceci s'explique entièrement par le nous et l'univers. Et s'explique entièrement par le lien qui existe, le lien vital entre les deux. Mais dès que je me mets dans l'analyse, je me mets dans l'analyse tout à partir de l'opération vitale qui implique une opération spirituelle. J'analyse cette opération spirituelle. Ou je regarde le point de vue de l'existence. Ce qui est. Donc je voudrais découvrir, c'est intéressant, je voudrais découvrir un nouveau type d'analyse qui est l'analyse au niveau de la personne. Alors, est-ce que nous pouvons découvrir une nouvelle analyse au niveau de la personne ? C'est pour ça que je reviens toujours à la question. Quelle est l'induction propre qui nous permet de découvrir un nouveau principe ? Ce nouveau principe, vous êtes bien d'accord, c'est une substance qui est spirituelle.
Mais ça ne serait pas, vous voyez, le nous est saisi dans l'animal comme principe de la puissance.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis la substance spirituelle. Ce ne serait pas le nous saisi comme dans le dianima, ce serait la substance spirituelle. Ce serait l'enracinement du nous dans le nousia.
Dans l'analyse, c'est autre chose, puisque c'est un autre aspect, au-delà du point de vue substantiel. Mais selon la réalité, c'est la même chose.
Selon la réalité, c'est le pense. C'est le comment.
Ou alors est-ce que c'est l'expérience
non.
Ou alors
je crois pas. Je crois que c'est une pause. Dès que je suis dans l'ordre du comment, je regarde l'existant concret. Cet existant concret qui est l'homme, qui est la personne humaine, elle est à la fois substance et elle est à la fois esprit. Elle est en même temps substance et esprit. Dans l'analyse, j'ai fait deux analyses différentes, mais dans le concret, alors le concret, c'est pour c'est la manière de regarder de la manière d'exister. Est-ce qu'il y a une vraie... c'est très important, c'est pour ça que je le soulève, parce que je crois que ça fait vraiment partie de toute une réflexion philosophique là-dessus. Parce que c'est important de comprendre s'il y a, au-delà de ce pose, une nouvelle partie de la philosophie, qui serait la philosophie de la personne. Pour moi, je ne crois pas, mais je laisse ouvert, hein. C'est nourri, si on avait un raisonnement, une manière particulière de voir ce qu'est l'opération typiquement humaine, on essaierait de comprendre qu'à partir de là, on peut peut-être saisir une source, un principe grand. Bon, il faut réfléchir là-dessus, c'est important. C'est très important parce que puisque toute la philosophie est ordonnée à l'homme et ordonnée à la personne humaine, il y a donc un intérêt de saisir si de fait il y a une partie de la philosophie qui est une philosophie de la personne.